ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Monseigneur Jean-Pierre Battu. Vous êtes évêque auxiliaire dans le diocèse de Toulouse et vous nous faites l'honneur, vraiment le plaisir, merci, de nous présenter vos vœux pour l'année qui vient pour les auditeurs de Radio Présence, j'allais dire pour vous-même, quels sont vos vœux, vos désirs, et puis bien sûr pour le diocèse, j'allais dire aussi pour le monde qui a besoin de la paix.
Oui, alors c'est banal de présenter ses vœux, ça se fait chaque année, c'est une coutume, et je pense que c'est très important de se rappeler que présenter ses vœux, c'est pas simplement souhaiter des choses qui nous arriveraient et qu'on espère aussi bonnes que possible, mais c'est aussi se rappeler notre propre responsabilité dans ce qui arrive, et bah, voilà, si petit qu'on soit, on a une part de responsabilité, une part de liberté à exercer, qui fait qu'on peut changer des choses. Voilà, c'est peut-être, comme disait Mère Teresa, une goutte d'eau dans la mer, mais si cette goutte d'eau n'y était pas, elle manquerait. Et c'est ce que j'espère toujours en début d'année, c'est pour moi d'abord, hein, de me rappeler que ce que je fais compte, et que les vœux que j'envoie aux autres, eh bien, c'est pour leur rappeler aussi que ce qu'ils font compte toujours.
Alors, ce n'est pas banal. Et je voudrais tout de suite que nous situions notre discours, pardon, j'ai dit, ah ben c'est pas un discours, c'est pas une homélie, c'est en fait un sociologue qui s'adresse à une personne qui a une responsabilité dans l'Église, et c'est pas toujours facile de situer comment les paroles vont avoir du sens pour les auditeurs et pour nous-mêmes. Alors, je m'étais dit, tiens, est-ce que je dirais monsieur, parce que moi je suis un sociologue, disons, neutre dans mon travail, est-ce que je dis monseigneur, parce que c'est votre titre, et vous avez plusieurs casquettes, vous n'avez pas mis votre mitre ici, ni la crosse, parce que vous êtes venu, j'allais dire, en ami, mais aussi vous avez une parole pour les auditeurs dans cette radio chrétienne, catholique. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voudrais vous demander de vous situer déjà en tant qu'homme par rapport à votre famille et comment vous êtes venu cet appel à être prêtre, puis ensuite, très rapidement, vos études.
Oui, je suis d'une famille qui est catholique par tradition. Voilà, sans engagement particulier, et donc j'ai été baptisé tout petit, j'ai fait ma première communion, je suis allé au catéchisme, voilà, parce que c'était, surtout à l'époque, des passages naturels qu'il fallait honorer, voilà, et ma famille n'avait absolument rien contre, bien au contraire, mais j'étais pas conscient que être chrétien, c'était un appel. Je pense que c'est d'abord ça. Je ne suis pas chrétien d'abord parce que j'ai choisi de l'être, mais parce que j'ai été choisi pour l'être. Et il y a eu un déclic dans ma vie où j'ai pris conscience de ça à travers des gens qui vivaient leur foi de manière assez engagée. Et ça m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai rencontré des gens dont la vie était une vie donnée, des prêtres en particulier. Et c'est là que... J'étais adolescent à l'époque, c'est là que l'idée d'être prêtre a germé dans mon esprit. Bon, je l'ai mise dans un tiroir, j'ai fermé le tiroir à clé, j'ai jeté la clé parce que ça me dérangeait cette idée. Puis c'est revenu après, c'est revenu à des moments où je me posais la question de fonder une famille. Donc je me suis dit, je suis à un carrefour et il faut que je prenne une décision, il faut que j'aille jusqu'au bout d'une réflexion que j'ai amorcée puis que je n'ai pas achevée. Et c'est comme ça que les choses se sont faites.
La foi des autres.
J'ai quand même été jusqu'au bout de mes études. J'étais programmé, entre guillemets, pour être enseignant.
Germaniste. Vous avez fait des études d'allemand.
Germaniste. Et puis, je ne regrette pas du tout d'être allé jusqu'au bout de mes études, bien au contraire, même si j'ai enseigné très peu de temps, parce que... je me suis rendu compte que c'était bien de finir quelque chose qu'on avait commencé, que ça apportait toujours un plus dans une vie.
Alors on dit le séminaire des missions tardives.
Oui, alors...
À l'époque.
Autrefois, quand on entrait au séminaire, sans avoir fait le petit séminaire, on disait qu'on était une vocation tardive. Moi, je suis entré à 25 ans au séminaire, donc je ne sais pas si je suis une vocation tardive. Enfin, en tout cas, j'ai été ordonné prêtre, j'avais 29 ans, 11 mois et quelques jours, je n'avais pas tout à fait 30 ans. Alors, bon, j'étais plus ou moins dans la moyenne à l'époque de l'âge d'ordination, donc voilà.
Et on peut lire sur le site du diocèse, hein, votre curriculum vitae, mais ensuite, pourquoi Rome ? C'est vous qui avez choisi ou avez-vous été envoyé ?
Pas du tout, pas du tout. C'est parce que, bon, j'étais de Paris, donc je suis allé voir l'archevêque de Paris, qui était le cardinal Marti à l'époque, avec son accent rocailleux, très accueillant, et son service des vocations m'a proposé d'aller à Rome, ce qui m'a plutôt ravi, parce que j'avais quand même fait 6 ans d'études supérieures à Paris, et j'avais envie de changer d'air, voilà. Et effectivement, j'ai changé d'air. Et puis à Rome, j'ai côtoyé des gens qui venaient du monde entier, dans un amphithéâtre d'une centaine d'étudiants à l'université grégorienne. On était une dizaine de Français, et puis les autres, ils venaient des autres continents. Donc, il y avait une vision
une
très large.
Une ouverture à la mondialisation. Et la rencontre de Guy de Quérimel.
Et alors voilà, pas tout de suite, parce que je devais être là depuis 2 ou 3 ans déjà, mais il est arrivé et on a passé, je pense, au moins 2 ans ensemble dans le même séminaire. Voilà. Et puis ensuite, on s'est perdu de vue, comme ça arrive souvent, parce que lui était du diocèse d'Aix-en-Provence et moi du diocèse de Paris. On n'avait pas trop de raison de se rencontrer.
Et puis la nomination ensuite, puisque vous allez à Blois.
On s'est retrouvé comme évêque. Et vous connaissez la suite.
Ben, les auditeurs peuvent aussi approcher ces questions et à travers le site du diocèse. Je voudrais dire d'abord mon plaisir que j'ai de vous revoir, parce que notre première rencontre, en fait, s'est faite à l'espace communautaire lorsque nous avons été avec nos amis de la communauté juive libérale et des juifs orthodoxes pour...
Oui, dans des circonstances assez dramatiques, d'ailleurs, qui perdurent, oui. Malheureusement. On en reparlera.
Alors, ce qui montre votre souci des relations interreligieuses. Nous verrons plus tard aussi l'œcuménisme et puis ensuite votre tâche ici, mais dans l'interreligieux, bien, vous aimez méditer des psaumes. Je crois qu'il y en a un qui vous intéresse particulièrement, c'est celui qui parle des peuples et de la nation. Et le peuple choisi ou la terre sainte, alors moi je demande souvent aux personnes, ça veut dire quoi, saint? Puisqu'on dit le Saint-Père, on dit la terre sainte, et pour moi je récuse dans mon travail de neutralité axiologique la notion de sainteté, parce que c'est au nom peut-être d'un désir de pureté qu'on va être agressif envers les autres. Mmh. Alors s'il vous plaît, si vous nous dites toi mon Dieu, tu es mon espérance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, ça c'est le psaume 70, mais il y en a un autre qui est tout aussi intéressant, le psaume 23, qui fait le lien avec ce que je viens de dire. Ô Seigneur, le monde et toute sa richesse, la terre et tous ses habitants. Et alors Dieu dans tout ça, en un mot, dans ce conflit, dans ce drame des territoires entre la Palestine et Israël.
Oui, c'est un drame de proximité en même temps, parce que ce sont des peuples que bien des choses rapprochent, en fait.
Et les sémites,
il n'y a pas pire ennemi que les frères ennemis, comme chacun sait, hélas. Et puis, c'est un drame de légitimité, parce que, à des titres divers, ces deux peuples ont une légitimité par rapport à cette terre, mais des légitimités très, très diverses et qui se combattent. Et donc, j'ai toujours pensé que la seule voie possible qui aurait été, et qui sera peut-être, je l'espère, une voie exemplaire pour l'ensemble de l'humanité, c'est que les frères se réconcilient et essaient de bâtir quelque chose ensemble.
Alors, la terre promise, un seul État, deux États. La notion Dieu nous a choisis, C'est pour les chrétiens, mais pour des juifs et pour nos amis musulmans.
Oui.
C'est une question importante, ce choix, puisque oui. Vous avez dit que vous aviez été choisi par Dieu pour avoir
une
mission.
Alors, je n'oublie pas que je parle à un sociologue. Donc, l'élection, qui est quelque chose qui hérisse beaucoup, parce que...
Exclusion.
C'est la mise à part. C'est la mise à part, mais quand on regarde dans la tradition biblique, on est toujours mis à part pour tous. Voilà. Abraham est mis à part pour tous, Marie est mise à part pour tous.
Pour un service.
Un peuple est mis à part pour toutes les nations. Et c'est lorsque celui ou ceux qui sont mis à part oublient que cette mise à part est pour tous que les ennuis commencent. Voilà. Alors, on peut se demander pourquoi cette stratégie de Dieu qui consiste à mettre à part et à créer finalement des dissensions, puisque finalement, si on va jusqu'au bout, si c'est Dieu qui met à part, c'est Dieu qui crée les dissensions. Et d'ailleurs, il y a un texte du Nouveau Testament, l'Épître aux Éphésiens, qui parle du mur de la haine. Voilà. Je pense souvent à ça, puisqu'on voit un mur quand on va en Terre Sainte. La vision de ce mur est assez terrible. Le mur de la haine... Et le texte des Éphésiens dit que le Christ a abattu ce mur de la haine, qu'il l'a complètement réduit à néant. N'empêche que, à l'origine, c'est Dieu qui met à part, donc Dieu a une responsabilité là-dedans. Alors pourquoi fait-il comme ça? Eh bien, on n'a pas trop de toute une vie à essayer de comprendre.
Alors la notion de Dieu, pour moi, j'avoue qu'il faut l'interpréter, parce que est-ce que c'est Yahvé, l'Éternel? Ou est-ce que c'est Allah? Ou est-ce que c'est Dieu? Jésus fait homme, incarné, puisque nous parlons un peu après Noël. Or, c'est un vrai souci. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est le peuple tel que le demande l'Organisation des Nations Unies? Et vous aimez méditer sur cette phrase, que les nations s'effacent devant l'unique peuple.
Oui, parce que, alors ça c'est très biblique, les nations, dans la Bible, c'est tous ceux justement qui ne font pas partie du peuple de l'Alliance. On dit traditionnellement qu'il y en a 70, les nations qui sont sous le ciel. Bon, c'est un chiffre symbolique, 70 bien sûr. Et la Bible pointe vers l'unique peuple, c'est-à-dire que sans détruire ce qui fait la richesse dans la variété des nations, Dieu veut les rassembler en un peuple. Voilà. Et c'est l'objet de notre espérance, parce que si la vie éternelle n'est pas un vain mot, si l'histoire s'accomplira un jour, ben c'est dans un mouvement d'unité. Mais un mouvement d'unité qui n'est pas la dissolution des uns et des autres. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très beau que les langues soient différentes, que les cultures soient différentes, que les ethnies soient différentes, parce que ça nous montre cette espèce de feu d'artifice de que représente l'humanité, que représente le cosmos. Et donc ça, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, bien au contraire. La Pentecôte ne détruit pas les différences. C'est Babel qui veut détruire les différences, voilà, mais la Pentecôte, non. Les différences subsistent. Mais dans ces différences, on peut constituer un peuple. Et qu'est-ce qui est derrière ça? Derrière ça, il y a l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu se diffuse... Vous m'avez dit de ne pas faire d'homélie, alors j'hésite un peu là, je suis sur une mauvaise
absolument.
Pente. Là.
Non, mais c'est important. Si on parle d'empire, oui. Si on parle de royaume, si on parle de la Oumma, si on parle de l'universalité, par exemple, de cette église catholique universelle. Ce sont des mots qu'il nous faut décortiquer, et je crois que nous avons besoin des sciences humaines, n'est-ce pas? Le Concile nous l'a dit. On peut très bien rester au niveau du ciel des idées, mais il faut aussi redescendre dans la terre. Et c'est le conflit entre religion et politique. Or, même ces mots sont piégés. Parce que qu'est-ce que c'est que la religion, selon moi, ce qui nous relie aux autres contre des adversaires, mais nos textes, que certains disent sacrés ou révélés, qu'il nous faut commenter? Or, vous êtes aussi exégèse, vous êtes théologien. Vous n'êtes pas seulement un homme d'appareil, excusez-moi, mon frère. Mais c'est donc tout ce débat. Et merci d'être venu. Il faudra encore plusieurs émissions pour évoquer ces questions dans la distinction entre nos différentes disciplines.
Tout à fait. Et le besoin que nous avons les uns des autres, que vous soulignez très justement.
Alors, merci de nous avoir apporté une plage musicale qui va nous permettre de méditer un peu, parce que nous avons abordé beaucoup de sujets, des sujets complexes, mais Christophe va nous ouvrir sur cette musique que vous nous avez apportée et qui est...
Alors, nous allons écouter du Vivaldi, je crois.
Oui.
Donc, une magnifique pièce baroque de Vivaldi. C'est vénitien. J'ai toujours eu une fascination pour Venise, parce que Venise est un carrefour, et un carrefour tellement extraordinaire qui a pris des choses magnifiques de tous les côtés et qui en a fait Venise. Et Vivaldi, pour moi, quand j'écoute Vivaldi, je suis à Venise.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et Monseigneur Jean-Pierre Battu, vous êtes évêque auxiliaire du diocèse de Toulouse et vous venez présenter pour l'Église, pour le monde et pour les auditeurs de Radio Présence vos vœux pour l'année 2024. Nous étions restés sur cette réflexion du royaume de Dieu, de la paix et de cette tension, de ce conflit. Vous avez reçu avec l'ensemble des évêques du monde entier une lettre qui s'appelle Kairos. C'est les membres Afrique du Sud et Kairos Palestine. Une lettre ouverte aux dirigeants et aux membres des églises, des États-Unis, d'Europe et de la grande famille œcuménique. Pourquoi ces églises gardent-elles le silence, nous disent-ils, et vous êtes interpellé?
Alors, je suis interpellé par cette lettre, et en même temps, je pense que le procès qui est fait aux églises est assez injuste, parce que les églises ne sont pas silencieuses, elles parlent, et surtout, les responsables religieux qui sont sur le terrain, d'abord, sont présents, ils n'ont pas pris la fuite avec ce conflit terrible, et puis ils s'expriment, et ils disent les choses. Le souci des églises, c'est de parler pour tous. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, parce que, en fait, dans un conflit aussi tranché que celui qui se passe en ce moment au Proche-Orient, chacun parle pour soi, et ce que dit l'autre devient totalement inaudible. Et c'est ça la difficulté. Je vais très souvent dans ce pays, j'y suis allé une trentaine de fois, j'y emmène des groupes, et la première chose que je dis aux gens que j'emmène, c'est écoutez tout le monde et ne prenez pas parti. Parce que la tentation, c'est tout de suite de prendre parti. Et si nous prenons parti, en fait, nous nous rendons incapables d'écouter une partie des gens qui ont des choses à nous dire. parce que dans la logique qui est la leur, ils ont non seulement des choses à nous dire, mais souvent des choses qui sont vraies, mais qui vont s'entrechoquer avec d'autres vérités. Donc, je pense que la place des églises, si vous voulez, elle est, je vais employer une expression triviale, d'être assis entre deux chaises. Voilà. Parce que nos frères juifs ne pourront pas nous désolidariser d'eux, nos frères arabes ne pourront pas nous désolidariser d'eux, qu'ils soient musulmans comme la grande majorité d'entre eux là-bas, ou qu'ils soient chrétiens comme le petit groupe, il y a une petite paroisse catholique à Gaza. L'enjeu, c'est d'être précisément autant que possible un pont entre ces différentes communautés qui s'éloignent les unes des autres.
Comme entre les religions ici, puisque vous êtes un partisan et un acteur de l'œcuménisme. Alors, il nous reste malheureusement plus que 2 minutes pour évoquer ces questions, le chemin de croix du Vendredi Saint ou bien la prière pour l'unité des chrétiens. Mais comme germaniste, vous avez abordé ces questions, l'accélération du temps, le livre Beschleunigung. Et puis, il nous resterait 30 secondes pour évoquer votre travail et vos relations en Algérie. D'abord, alors, donc, cette accélération du temps.
Alors, 30 secondes pour tout ça, c'est peu. Alors, Harmut Rosa, qui est l'auteur du livre Accélération, en français, c'est un de vos confrères, puisqu'il est sociologue. Et c'est tout simplement une réflexion sur tout ce qui est fait pour nous faire gagner du temps dans notre civilisation contemporaine, et qui, en fait, nous compresse, nous stresse, et qui fait que l'élément majeur, l'expérience majeure de notre modernité, c'est celle de l'accélération. Le temps se compresse par exemple, les fast-food, voilà, on va plus prendre le temps d'un repas, mais on va au fast-food. Des changements socioculturels qui vont très vite. Il a fallu 38 ans, fait-il remarquer, pour que, entre l'invention de la radio et l'équipement de 50 millions de foyers, on diffuse la radio. Et il a fallu, en fait, 4 ans pour que la connexion Internet se diffuse. Voilà, ça va de plus en plus vite. Et c'est censé nous faire gagner du temps. Et en fait, le temps nous oppresse de plus en plus. Donc, c'est une invitation, si vous voulez, à réapprendre à s'arrêter.
Le silence, quand
oui,
vous
parlez. Oui, à s'arrêter pour regarder, Sarah, à s'arrêter pour écouter. Des choses toutes simples, mais qui demandent de se dégager d'une espèce de rouleau compresseur qui s'exerce à notre endroit sans que nous nous en rendions compte, et avec notre complicité parfois.
Et le temps de la prière, justement, et de la liturgie.
Bien sûr.
Et même peut-être à l'intérieur même des messes, qu'il y ait à la fois cette reconnaissance qu'il y a plusieurs manières de vivre le culte, puisque vous êtes, vous êtes chargé d'harmoniser peut-être, alors que chaque curé est responsable dans sa paroisse, mais en même temps, ce dialogue entre les oui. catholiques de Toulouse.
J'aime beaucoup la définition que donnait du dialogue le pape Jean-Paul II. Il disait, ce n'est pas d'abord un échange d'opinions, c'est un échange de dons.
Alors, vous allez nous donner votre bénédiction, cher frère
avec
évêque,
joie.
Puisque nous sommes en ces débuts d'année et nous espérons bien qu'il y aura d'autres rencontres entre le sociologue ou le philosophe et peut-être des amis allemands sur la richesse de tout ce que vous nous faites en venant chez nous à Toulouse.
Ma bénédiction, ce sera un texte de la liturgie du 1er janvier, qui est la fête de Marie, Mère de Dieu, un texte emprunté à l'Ancien Testament. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse resplendir sur toi son visage et te donne la paix.
Et vous nous apportez ce chant de Noël que Christophe va nous donner. Merci, Monseigneur.
Merci,
merci Christophe.
Vous.